a song that comes from Tanzania.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Radio Galère, pour cette émission Livres et Amis du mercredi 19 octobre 2022. Aujourd'hui, Dominique avec Jacques pour les lectures en l'absence de Françoise qui nous revient la semaine prochaine. Et aujourd'hui, à nouveau, comme la semaine dernière, un livre Retour du Festival America, mais très différent. Alors que nous étions la semaine dernière chez les Inuits du Québec, nous sommes cette semaine en Californie, avec toutefois un livre très universel, jamais vraiment situé dans le temps ni dans l'espace. Et avant de parler littérature, je voulais vous inviter, comme souvent, à aller au théâtre et au cinéma et à vous promener dans notre belle ville, puisque l'été continue. Beaucoup d'événements, à nouveau, ce week-end et le suivant. Par exemple, la Pop Philosophie, samedi, au FRAC. Et au FRAC toujours, les visites commentées gratuites du dimanche, qui sont de véritables découvertes. Revenons à notre livre du jour. J'ai choisi pour vous La ligne de nage, une traduction de The Swimmers de Julie Otsuka. Et c'est son troisième roman. C'est le troisième roman donc, de Julie Otsuka qui a reçu de nombreux prix pour celui-ci comme pour les deux précédents. Même si ce dernier roman est en fait très différent de ces deux premiers. Les deux premiers, vous les avez peut-être lus, c'était « Quand l'empereur était divin » et « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Ces deux romans revenaient en fait sur l'exil de femmes japonaises et même de familles japonaises vers les États-Unis dans la première moitié du XXe siècle, et leur internement dans de véritables camps de prisonniers pendant plus de 4 ans, quand les États-Unis et le Japon ont été en guerre de 1941 à 1945. Ces histoires totalement méconnues aux États-Unis, et évidemment encore plus en Europe, étaient passionnantes, bien sûr. Mais ici, le propos est beaucoup plus universel, je l'ai dit, puisqu'il s'agit du vieillissement et de la perte de mémoire graduelle d'une femme âgée, peut-être une de ses enfants d'origine japonaise, née aux États-Unis dans les années 40, mais dont la vie adulte s'est déroulée sans incident majeur, et dont la vie sociale, bien huilée, ne la situe pas de façon particulière dans un pays ou dans une époque. Cette femme, sa particularité, c'est que c'est une nageuse. Elle fréquente chaque matin une piscine couverte en ville pour y faire des longueurs. Et ce petit monde des nageurs est un univers à part entière qui occupe toute la première partie du livre, comme pour nous montrer la spécificité mais aussi la normalité de la vie des nageurs. Et puis, tout se fissure, alors que, justement, une fissure puis d'autres apparaissent au fond de la piscine. Les fissures, de la piscine, ce sont comme des signes matériels de la détérioration des capacités intellectuelles, ou plutôt mentales, de notre héroïne Alice. Alice, qui nageait sans problème, comme les autres, se met à oublier certains aspects de sa vie et au contraire à s'en remémorer d'autres, laissés de côté pendant longtemps. Et dans une troisième partie, Alice se retrouve dans une maison de repos où elle va vivre désormais entre ses souvenirs en pointillés et les visites de son mari et de sa fille. Un peu comme nous l'avions vu dans Le Tiers-Temps, consacré par Maïlys Bessery à la fin de vie de Samuel Beckett, la vie d'Alice dans sa maison de retraite est décrite par des tiers. Sa fille, on l'a vu, le personnel soignant de la maison de retraite, et puis ceux qui décident des règlements de la vie quotidienne de cette maison de retraite. Et comme on est effectivement aux États-Unis, le quotidien est différent pour ceux qui payent beaucoup et pour ceux qui payent un peu moins. Au fil des lignes, une satire assez acide de cette vie quotidienne, toujours gérée par les rapports à l'argent, se fait jour. Mais revenons au début. Le monde d'en bas, celui des nageurs, Et le monde de la surface, donc le monde des nageurs, c'est en bas, le monde de la surface, c'est en haut. Et en ce qui concerne Alice et le monde des nageurs, on va écouter Jacques.
La piscine est profondément enfoncée sous terre, dans un vaste espace caverneux, à plusieurs mètres sous les rues de notre ville. Certains d'entre nous viennent ici parce qu'ils sont blessés et cherchent à guérir. Nous avons des problèmes de dos, d'affaissement du pied, d'anxiété, de rêves brisés, d'anhédonie, de mélancolie, bref, les maux habituels qu'on rencontre là-haut. D'autres travaillent pour l'université toute proche et préfèrent prendre leur pause déjeuner là en bas, dans l'eau, loin du rude regard de nos pères et de nos écrans. Certains encore se réfugient ici pour fuir ne serait-ce qu'une heure, un mariage décevant. Beaucoup d'entre nous vivent dans le quartier et aiment simplement nager. Une en particulier, Alice, ancienne technicienne de laboratoire à la retraite qui en est au premier stade de la démence, vient ici parce qu'elle y vient depuis toujours. Et même si elle ne se rappelle plus le code de son casier, ni où elle a mis sa serviette, dès l'instant où elle se glisse dans l'eau, elle sait ce qu'il faut faire. Les mouvements de ses bras sont longs et fluides, son battement de pied puissant, son esprit clair. Là-haut, dit-elle, je ne suis qu'une vieille dame parmi d'autres, mais ici à la piscine, je suis moi-même. En allant à la piscine, la plupart du temps, nous laissons nos problèmes là-haut, sur terre. Les peintres ratés brassent avec élégance, les professeurs remplaçants font de l'eau telle des requins à une vitesse vertigineuse, le directeur des ressources humaines récemment divorcé attrape une planche en polystyrène d'un rouge passé et se met à fouetter des pieds en toute impunité, l'homme sandwich réduit à sa plus simple expression flotte sur le dos telle une otarie en contemplant les nuages sur le ciel bleu pâle peint au plafond. Et pour la première fois de la journée, il ne pense absolument à rien. Lâche-toi. Les anxieux cessent de se ronger les sangs. Les veuves éplorées en oublient leur deuil. Les comédiens au chômage, incapables de s'en sortir là-haut, glissent sans effort dans le couloir rapide, dans leur élément. Enfin, j'y suis. Et pendant un bref intermède, nous sommes à l'aise en ce monde. La mauvaise humeur s'évapore, les tics disparaissent, les souvenirs reviennent, les migraines se dissolvent et lentement, lentement, le fracas dans nos esprits commence à se dissiper, tandis que, battement après battement, longueur après longueur, nous nageons. Et lorsque nous en avons fini de nos allers-retours, nous nous hissons hors de l'eau, dégoulinants et rafraîchis, notre équilibre retrouvé, prêts à affronter un nouveau jour sur terre.
On tourne les pages.
À la piscine, tout le monde respecte des règles, bien qu'elles ne soient jamais formulées. Nous sommes notre meilleure police. Il est interdit de courir, de crier, d'amener des enfants. Seuls sont autorisés les allers-retours en tenant sa droite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les pansements doivent être retirés. Nul ne peut entrer dans le bassin sans avoir au préalable pris une douche de 2 minutes, eau chaude et savon. Nul ne peut entrer dans le bassin s'il souffre d'une éruption cutanée non identifiée ou d'une plaie ouverte, à l'exception de celles d'entre nous qui ont leurs règles. Nul ne peut entrer dans le bassin s'il n'est pas inscrit parmi les adhérents de la piscine. Il est permis d'avoir un invité, pas plus d'un à la fois par adhérent, mais en s'acquittant d'une cotisation nominale à la journée. Les bikinis sont autorisés, mais pas encouragés. Les bonnets de bain sont obligatoires. Les téléphones portables sont interdits. Les règles de la piscine doivent être observées en toutes circonstances. Si vous ne parvenez pas à tenir le rythme, vous devez vous arrêter au bout du bassin ou laisser la personne qui est derrière vous doubler. Si vous voulez doubler quelqu'un, vous devez lui tapoter le pied pour le prévenir. Si vous percutez un autre nageur par accident, vous devez vous arrêter pour vous assurer qu'il va bien. Soyez gentil avec Alice. Obéissez toujours au maître nageur. Retournez-vous à intervalles réguliers et naturellement, n'oubliez pas de reprendre votre respiration. Dans la vraie vie, là-haut, nous sommes petits joueurs, gros mangeurs, promeneurs de chiens, époux suiveurs, poètes mineurs, jumelles, véganes, travestis, tricoteuses compulsives, allez, encore un rang, silogomanes, clandestins. Maman, nous sommes un créateur de mode de second ordre, une bonne sœur, un sans-papier, une Danoise, un flic, un comédien qui viennent jouer un flic à la télé, agent Mahoney, un gagnant à la loterie de la carte verte, une double nominée pour le titre de prof de l'année, un joueur de go de niveau national. Trois types prénommés Georges, Georges le médecin spécialiste du pied, Georges le neveu du financier disgracié, Georges le boxeur amateur des Golden Gloves catégorie Walter, deux Roses, Rose et l'autre Rose, une Ida, une Alice, un dénommé personne, ne faites pas attention à moi. Un ancien du SDS, deux repris de justice, des valides, des drogués, des amers, des périmés, des batailleurs, des malchanceux, je crois que je viens de me séroconvertir. Nous sommes au crépuscule d'une terne carrière dans l'immobilier, au beau milieu d'une procédure de divorce qui n'en finit pas, ça fait 7 ans. À la fleur de l'âge, stérile, dans l'ornière, en mission, en rémission, à notre troisième semaine de chimio, dans un profond et incessant désespoir émotionnel, on ne s'y habitue jamais. Pourtant, là en bas, à la piscine, nous n'appartenons plus qu'à l'une de ces trois catégories, les rapides, les moyens et les lents.
Suit donc une description des différentes catégories. Nous allons continuer avec les caractères d'ensemble de tous ces nageurs après quelques petits silences de temps en temps pour tourner les pages comme d'habitude. Et vous aurez remarqué que dans cette première partie, en fait, l'histoire nous est racontée par un narrateur un peu abstrait, impersonnel, qui s'adresse à nous, lecteurs, mais que nous ne connaissons pas. Et c'est lui qui nous fait découvrir son monde, ce monde de la piscine, donc. Et on va continuer avec son monde de la piscine à la page 17.
Là-haut, beaucoup d'entre nous sont maladroits, disgracieux, de plus en plus lents au fil des ans. Les kilos superflus sont arrivés, le lâcher-prise s'est amorcé. À la commission des paupières, les pattes-doigts se déploient en silence, tels des éventails inexorables, des craquelures sur un pare-brise. Mais là en bas, à la piscine, c'est comme si nous rajeunissions. Les cheveux gris disparaissent sous les bonnets de bain bleu foncé, les rides s'effacent des fronts, les boitements l'en plus courts, les messieurs bedonnants, aux genoux douloureux là-haut, chevauchent gracieusement les flots en faisant leur aqua-jogging avec leur ceinture de flotteur orange. Les dames au physique généreux, qui ont depuis longtemps dépassé l'âge tendre, se révèlent souples et agiles dans l'eau, aussi lisses que des dauphins dans leurs maillots amincissants en élastane. Les ventres s'aplatissent, les poitrines remontent, les tailles depuis longtemps perdues émergent à nouveau. La voilà! Même la plus plantureuse d'entre nous fait glisser sa stature majestueuse dans son couloir, avec aisance et aplomb, tel l'imposant Queen Mary, ce corps qui est le mien a été conçu pour flotter. Et celles d'entre nous qui entendent mal se lamentent sur leurs traits tombants, là-haut, d'année en année, il est de plus en plus difficile de faire face. Vogue sur l'eau, sereine, car nous savons que nous sommes juste des formes vagues et périphériques, entreaperçues en passant par les nageurs de la ligne voisine, à travers le brouillard de leurs lunettes teintées. Le surveillant de baignade entre sur le bassin par une porte distincte où il est inscrit « réservé au personnel ». Puis il s'assied sur un tabouret métallique surélevé devant les gradins en bois, d'où il contemple l'eau pendant des heures. Le surveillant porte un short blanc et un t-shirt bleu clair. Il est placé sous l'autorité directe du directeur de la piscine, un petit homme à lunettes et à la parka usée, dont le bureau sans fenêtre est situé en face des distributeurs automatiques sur le palier intermédiaire inférieur. Le surveillant est parfois un adolescent maigrichon, parfois un homme adulte. De temps à autre, c'est une jeune femme. Souvent, le surveillant de baignade est en retard. Ponctuel ou retardataire, jeune ou vieux, homme ou femme, le surveillant ne reste jamais bien longtemps. Le mois dernier, c'était un informaticien au chômage de la ville voisine. Le mois précédent, le fils de l'entraîneur de foot local. Bande de terriens...
Ah oui, petite interruption téléphonique, on avait oublié d'arrêter nos téléphones. Mais on va reprendre. Bande de terriens, disons-nous.
Bande de terriens, disons-nous. Ce mois-ci, c'est un brun d'âge indéterminé qui a toujours une radio collée à l'oreille. Il est impossible de savoir à quoi il pense, s'il pense. Il répond à nos bonjours amicaux par un hochement de tête à peine perceptible. Les rumeurs le concernant sont légion. Il a 27 ans, il a 58 ans, il pleure, il dort, il ne se soucie pas vraiment de nous. Il préférerait être ailleurs, devinons-nous, car c'est avec un soulagement visible, d'aucuns diraient une joie à peine masquée, qu'il siffle la fin de chaque session et crie ses mots préférés avec un accent léger, quoique perceptible, qui sonne vaguement d'Europe de l'Est. Tout le monde sort.
Page 24.
Le choc de l'eau, il n'y a rien de comparable à cela sur Terre. Le frais liquide clair qui glisse sur chaque centimètre de notre peau, échappé temporairement à la gravité terrestre. Ce miracle qui fait que nous flottons lorsque nous filons à la surface bleue et miroitante de la piscine, sans que rien ne nous ralentisse. C'est comme si on volait. Le plaisir pur d'être en mouvement, la disparition de tout besoin, je suis libre. Soudain, vous planez, à la dérive, plongé dans l'extase, l'euphorie, dans un bonheur qui vous ravit, telle une transe. Et si vous nagez assez longtemps, vous ne savez plus où finit votre corps et où commence l'eau. La frontière s'estompe entre vous et le monde, c'est le nirvana.
C'est le nirvana, c'est un monde quasi idéal dont on poursuit la description encore une page ou deux.
De temps à autre, l'une d'entre nous disparaît pendant une semaine ou deux et l'on se renseigne là-haut. On envoie des emails, on laisse des messages audio, on écrit des mots à l'ancienne sur de fines feuilles de papier à carreaux qu'on plie en quatre pour les glisser sous une porte. Coucou, tout va bien ? En général, il n'y a rien de grave. Une tendinite à l'épaule, mon chien tire trop fort sur sa laisse, une présence requise en tant que membre d'un jury, la semaine annuelle de congrès de l'entreprise, un visiteur qui s'est installé chez nous et qui refuse de partir, ou tout simplement, comme Alice, vous oubliez. Pourtant, de temps à autre, arrive une mauvaise nouvelle. Il a abandonné. Parfois, là-haut, un nageur reçoit un ultimatum inattendu de la part d'une épouse malheureuse. C'est moi ou la piscine ? Ou il se réveille un matin, au bout de 25 ans, et la pensée de nager ne serait-ce qu'une longueur de plus leur est insupportable. Ça m'a paru soudain dénué de sens. Et voilà, nous n'entendrons plus jamais parler d'eux. Mais à tous ceux qui nous ont quittés, volontairement, à regret ou sous la contrainte, nous n'avons qu'une chose à dire. Revenez quand vous voulez nager dans votre enseigne ligne. Nous ne poserons pas de questions. Mais où étais-tu passé ? Nous ne vous tiendrons pas rigueur de votre absence. Nous promettons de vous accueillir chaleureusement, avec respect et sans faire trop d'histoire. C'est sympa de te revoir, dirons-nous. Ou, ça faisait un bail. Mais gardez bien en tête ceci, si vous nous abandonnez une seconde fois, c'est terminé.
Un monde à part, donc, un monde coupé des réalités matérielles et en quelque sorte un monde complètement distinct de ce monde de là-haut, évoqué par ailleurs, ce monde différent, c'est le cas de le dire, et en fait, deux mondes qui ne se confondent jamais. Je vais revenir un petit peu justement sur ce monde de là-haut que Alice, ou bien notre narrateur abstrait, oppose de temps en temps à celui d'en bas. Les premiers instants du retour à la surface sont toujours les plus durs. Le soleil trop fort qui tape à travers la canopée déchirée des arbres, l'insupportable ciel bleu, des hommes inquiets en costume sombre qui montent et qui descendent de voiture, des mères maigres et épuisées, des petits chiens blancs qui tirent vicieusement au bout de leur longue laisse rétractable, des sirènes, des marteaux-piqueurs, des pelouses d'un verre artificiel. Nous reprenons une respiration profonde en balançant d'un geste cavalier notre serviette humide sur l'épaule et nous posons lourdement un pied devant l'autre pour avancer du point A au point B, cheveux mouillés, genoux tressaillants, de profondes rainures cernant encore nos yeux, empreintes de nos lunettes. Je suis sortie. Et même si nous retournons avec réticence à nos vies, là-haut, nous encaissons tout cela. car nous sommes simplement en visite au royaume des terriens. Si jamais vous croisez par hasard un autre nageur là-haut sur Terre, il est possible que vous vous mettiez à rougir involontairement, comme si vous vous rencontriez pour la première fois, alors que vous voyez peut-être cette personne tous les jours depuis 10 ans, mais dégoulinante et presque nue. Oh, je ne l'ai pas reconnue avec ses vêtements, pensez-vous sans doute. Ou, oh, sa chemise est trop serrée. Ou, il est trop âgé pour porter ce genre de jean. Et après, vous ne pourrez plus jamais regarder la personne en question comme avant. Ou encore, vous surprendrez-vous à dévisager un inconnu à la pharmacie sans savoir pourquoi. Et tout à coup, vous aurez une illumination. Ah oui, c'est le type au tuba qui nage toujours dans la ligne 3. Et en allant au centre commercial, vous ferez une expérience intense, un moment de déjà-vu, lorsqu'une femme vous doublera en jurant, secouant la tête et appuyant sur son klaxon. « Mais en fait, c'est Suzette, c'est votre camarade de ligne. Ah, oh, elle a une magnifique BMW noire et elle vous double sur terre, bof, avec la même courtoisie qu'elle le fait dans l'eau. » Ah, oh, tout va très bien, répondrez-vous. À bientôt dans la piscine. » Et lorsque vous la voyez, la fois suivante, elle est en pleine forme, magnifique, dans son maillot à smoke, vert et blanc, étirant ses bras gracieux dans l'eau, nageant ses longueurs, liquides et tranquilles. Certains disent que notre propension à nager est excessive, si ce n'est pathologique. Je suis navrée que tu te sentes obligée de faire exactement 68 longueurs. Nous passons trop d'heures là, en bas, nous reproche-t-on. C'est une distraction, une dispersion, une diversion, un abandon de nos obligations. Sans parler du fait que ce n'est pas sain. On nous rappelle les risques qu'encourent les nageurs au sujet des oreilles, des yeux rouges, des germes présents dans l'eau, de la syncope en apnée, des dommages irréparables que le chlore cause à nos cheveux. Est-il vraiment nécessaire, nous demande-t-on, de faire la même chose à la même heure, tous les jours, chaque semaine, chaque année, sans faute? Et les promenades, et le soleil, et les pique-niques, et les oiseaux, et les arbres? Et moi? Nous demandent nos amis ou notre famille exaspérés. C'est alors qu'ils se mettent à énumérer nos défauts. Notre nature fondamentalement solitaire, notre besoin d'ordre, notre impérieux désir à l'exclusion de tout le reste d'être seul dans l'eau avec nos pensées, notre obsession à côté de la longueur, comme si la somme de nos allers-retours révélait notre nature profonde, notre mépris secret pour ceux qui vivent en permanence en haut, notre conviction qu'une journée sans nager ne vaut pas la peine d'être vécue, notre incapacité à tolérer le moindre changement dans notre routine. Oh, mais je ne vais pas encore rater la piscine. Notre aversion pour le chaos et la spontanéité. Oh, tu n'es pas drôle. Lâche-toi un peu, nous lance-t-on. Saute une séance, deux séances. Fais 67 longueurs au lieu de 68. À moins que nous ne préférions passer le restant de nos jours à faire des allers-retours au fond d'une boîte en béton géante. Eh bien, la réponse...
La réponse, bien sûr, c'est oui. Parce que pour nous, nager est plus qu'un passe-temps, c'est une passion, un réconfort, une drogue choisie, ce que nous attendons plus que toute autre chose. C'est le seul moment où je me sens vraiment en vie. Cela nous permet de rester concentrés, attentifs, cela ralentit le processus de vieillissement, fait baisser notre pression artérielle, développe notre énergie, notre mémoire, notre capacité respiratoire, notre vision même de la vie. Sans la piscine, en fait, nous serions sûrement tous morts. Alors, à nos critiques et à tous ceux qui prétendent que c'est seulement une question d'endorphine, nous disons, venez donc essayer, soyez nos invités pour la journée, prenez une serviette, enfilez votre maillot et votre bonnet et approchez-vous du bord. Maintenant, mettez vos lunettes, tendez les bras devant vous, une main par-dessus l'autre, les pouces croisés, le menton rentré, et lancez-vous dans ce glorieux plongeon. Vous verrez, une fois dans l'eau, vous ne voudrez plus en sortir.
Alors, nous allons tout de même en sortir, tout en y restant sur le plan musical. On va pas, comme très souvent, prendre une chanson, on va prendre un petit peu de musique classique. Et là, vous ne serez pas étonnés, puisque nous avons choisi Water Music, la musique de l'eau de Handel. Et avec, vous allez entendre du cor. Alors, je ne sais pas si le corps est en relation avec la piscine, mais en tout cas, la water music, c'est ce que Majdouline va nous envoyer maintenant. C'était Handel qui l'avait dit, c'était water music, même si ça n'a pas toujours un son complètement aquatique. Mais enfin, c'était ça. Et nous revenons à Alice et à ce qui se passe dans sa piscine.
Au début, on la voit à peine, petite ligne sombre juste au sud de la blonde dans le grand bain ligne 4. Elle apparaît un instant quand vous nagez au-dessus, et dès qu'elle quitte votre champ de vision, vous n'y pensez plus, tel un rêve qui s'évanouit au réveil. Si vous...
Eh oui, alors en fait, ça, cette espèce de petite chose-là dont Jacques a commencé à nous faire la description, c'est une fissure. dans cet univers du sous-sol, clos, abrité, cohérent, qui est comme un refuge pour Alice et sûrement pour d'autres nageurs, dans cet univers, donc, se produit une fissure. Cette fissure va mettre en danger, en fait, le monde de la piscine. Et on va avoir peu à peu des explications que notre narrateur, nageur, abstrait et collectif va nous donner.
Si vous clignez ou tournez la tête vers la lumière en remontant à la surface, ou si vous admirez tout simplement le physique supérieur du nageur du couloir voisin, vous ne la verrez pas. Beaucoup d'entre nous, âgés et n'ayant plus un œil de lynx, nous sommes des taupes sans nos lunettes et nous ne voyons même pas la fissure. Ou bien, en la voyant, nous la prenons pour autre chose, un bout de ficelle, un câble, une rayure sur nos lunettes de piscine. L'une d'entre nous, comme pour tout le reste, croit que ça vient d'elle. J'ai cru avoir un truc dans l'œil. Et pour les nageurs lents qui passent la plupart de leur temps et de leur vie, semble-t-il, à barboter dans le petit bain, la fissure n'est qu'une rumeur, une nouvelle venant d'une autre ligne, à laquelle nous ne prêtons aucune attention. L'un de nous, cependant, sort de l'eau dès qu'il aperçoit la fissure et s'en va sans dire un mot. « Il a rendez-vous chez le dentiste », dit l'une. Un autre déclare « Il a eu peur ». Quelle que soit la cause de ce départ abrupt, nous n'avons eu aucune nouvelle depuis. Pendant plusieurs jours, nous observons la fissure avec prudence, attendant de voir ce qui va suivre. Si elle s'agrandit, s'assombrit, change d'apparence, de forme, se réplique comme un virus dans la ligne 7, puis la 8, mais la fissure demeure obstinément, silencieusement, ineffablement égale à elle-même, minuscule fracture de l'épaisseur d'un cheveu au fond de la piscine, pas plus longue que l'avant-bras d'un enfant. Quelques-uns parmi nous pensent que nager au-dessus de la fissure porte malheur et décident d'éviter à tout prix la ligne 4. Je crois que je vais faire des exercices, disons-nous alors, et d'attraper une planche dont, pour nous en aller d'un pas nonchalant vers les lignes 1 ou 2. Certains de nos voisins, dans les lignes 3 et 5, montrent de la curiosité et, dès qu'ils peuvent, jettent un coup d'œil furtif sur le côté. L'une, mouvement costaud et extrêmement sérieux, qui là haut travaille dans l'événementiel au noir, se dit déterminée à ignorer la fissure. « Je refuse de la laisser prendre la main !» Pourtant, elle se surprend à la regarder chaque fois qu'elle nage au-dessus, presque malgré elle. Je ne peux pas m'en empêcher. Un autre jure que la dernière fois où il a nagé par-dessus, il s'est senti attiré vers le fond avec douceur mais insistance. J'avais l'impression de voler au-dessus du triangle des Bermudes, tandis que certains y pensent à peine. Alice l'oublie dès qu'elle sort de l'eau, et si jamais dans les vestiaires quelqu'un lui en parle, elle la regarde comme si elle était folle. Une fissure ? « Mais il n'y a pas de fissure, » répond-elle. Il en est parmi nous toutefois qui ne peuvent surmonter leur inquiétude. Et si cette fissure était le symptôme d'une dégradation systémique profonde, ou d'une anomalie géologique, ou la manifestation d'une importante faille souterraine qui grandit à l'abri des regards depuis des années ? D'autres ricanent. « La fissure, disent-ils, est purement cosmétique. » Une trace de rouille laissée par une épingle à cheveux tombée de la tête d'Alice. Elle ne pense pas toujours à mettre son bonnet. Ou bien, dit quelqu'un, c'est une fausse fissure, ou une œuvre d'art, ou les deux, un trompe-l'œil génial. Tout ce qu'il faut, c'est une règle et un marqueur à pointe fine. Une autre personne suggère que la fissure n'en est pas une, mais une blessure qui finira par se refermer et guérir, ne laissant derrière elle qu'une vague cicatrice. Pour l'instant, elle a seulement besoin de respirer. Laissez-lui du temps, nous demande-t-on. Enfin, on fait appel au surveillant de baignade pour régler les choses une bonne fois pour toutes. Il scrute l'eau claire bleutée, son sifflet d'argent se balançant au bout du ruban accroché autour de son cou, puis il secoue la tête, c'est rien. Nous procédons à des analyses, nous dit le directeur. La seule chose qu'il puisse affirmer sans se tromper, c'est que la fissure n'est pas une fuite. La pression de l'eau n'a pas changé, le niveau de la surface n'a pas baissé, aucune présence de liquide n'a été détectée dans le sol et les fondations demeurent saines et intactes. Des experts seront bientôt là pour examiner cette fissure, en rechercher l'origine et d'autres évaluations suivront en fonction de l'évolution de la situation. Ça arrive, nous dit-on. La fissure est sans doute un phénomène passager dû au réchauffement récent et à la fin de l'été, prédisent les officiels, tout sera redevenu normal. Bien que la fissure paraisse pour l'essentiel de nature docile et ne semble pas animée de mauvaises intentions à notre encontre, ses véritables desseins demeurent étonnamment inconnus. Les inspecteurs continuent d'explorer toutes les causes possibles, naturelles ou humaines, et pendant ce temps, la direction de la piscine invite tous les experts qualifiés qui déteignent le plus petit début d'explication à se mettre dès à présent en rapport avec elle. Aucune de ces suppositions, même la plus convaincante, n'est avérée. On pédale dans la semoule ici, dit Teresa Boyd, la responsable qualité de l'eau et de la santé environnementale. Le plus fou peut-être, c'est la théorie de la psychose collective mise en avant par une minorité, faible mais audible, de non-nageurs là-haut. Ils nient l'existence même de la fissure, qui prétendent, alors qu'ils ne sont jamais descendus dans notre piscine, que cette fissure est illusion pure ou qu'il s'agit d'une auto-organisation, une psychose partagée. Et que si nous reprenions nos esprits et cessions d'y penser à chaque seconde du jour et de la nuit, elle disparaîtrait. Le problème de cette théorie est que, après avoir vu la fissure, ou lorsque vous croyez l'avoir vue, elle s'inscrit subrepticement dans un recoin de votre esprit à votre insu. Et chaque fois que vous nagez au-dessus, ou que vous en entendez parler par des gens de l'extérieur, quelqu'un a dit que c'était contagieux, elle se grave plus profondément encore dans les circuits neuronaux de votre esprit. Et avant que vous en rendiez compte, elle est le domicile en vous de manière permanente. Nous sommes toutefois réconfortés par les résultats de la dernière étude, selon laquelle une fissure telle que la nôtre, vague, à peine décelable, presque invisible à l'œil nu, en un mot timide, tend à être de nature apathique, non agressive, et qu'elle avance à la vitesse d'un glacier. Elles peuvent rester en l'état sans rien faire pendant des années, nous assure l'ingénieur en chef Henry Mulvaney de la firme d'ingénierie géotechnique approuvée par la direction Mulvaney and Freed. Tandis qu'une vraie fissure, si on l'oublie, ne serait-ce que quelques heures, peut facilement continuer sa course et gagner toute une piscine en une nuit. On voit ça tout le temps. Sa conclusion finale, notre fissure est plutôt une pré-fissure qu'une véritable fissure en soi. Rien d'inquiétant, nous affirme-t-on. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, nous sommes tranquilles.
Tranquille, tranquille, mais oui, mais en fait, pas tant que ça. Le mal s'étend. Et écoutons, au bout d'un petit moment, ce que disent les experts. Lorsqu'apparaît une seconde fissure, jumelle ou clone de la première, même longueur, même largeur, même couleur et tonalité, deux jours plus tard, au fond du couloir 5, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s'il s'agit juste d'une répétition localisée et inoffensive ou du commencement de quelque chose de bien plus néfaste. Comment ? Comment ? Demande Alice. Et peu après le déjeuner, au moment où la nouvelle fissure se lance seule dans l'action, démarrant au fond de la ligne avant de freiner et de s'arrêter brutalement à quelques centimètres du mur, eh bien, dans la soirée, alors qu'on découvre deux autres petites fissures cachées à la lisière entre les lignes 5 et 6, plusieurs petites fissures, nous commençons à soupçonner notre piscine d'être un cluster de fissures. Ou tout au moins un rassemblement dans des proportions étonnantes, dit Megan, la marcheuse d'eau. C'est une épidémie, dit Richard. Un fléau, dit Dana. Le seul mot qui me vient à l'esprit, à la minute, dit Marc, brasse, ligne 3, c'est « Au secours !» Finalement, Denis Kovats de la division des contre-mesures liées aux risques structurels admet que il se passe quelque chose. Et lorsqu'on découvre la première fissure verticale, en fin d'après-midi, deux jours plus tard, juste avant la fermeture, sur le mur de la ligne 2 dans le petit bain, les inspecteurs déclarent qu'il y a une chance sur 6,3 millions pour que cette fissure soit un événement indépendant sans lien avec les autres. En fait, ils sont à peu près sûrs qu'elles sont là pour une bonne raison logique. Mais, affirment-ils, la situation reste gérable. Eh oui, pourtant, le lendemain, il n'y a pas foule dans la piscine. Les douches sont moins embrumées, les vestiaires moins bruyants. Je ne dirais pas que j'ai peur, mais je suis en permanence dans un état de panique à bas bruit, dit Tim. Dans nos vies réelles, là-haut, sur la terre ferme, nous sommes plus soucieux que de coutume. Nous mettons nos clés n'importe où, nous oublions de payer nos factures, nous sommes incapables de nous rappeler nos mots de passe, nous négligeons de nous coiffer. Nous sommes en retard au bureau, nous ne parvenons pas à nous concentrer pour travailler. Et parfois, au beau milieu d'une conversation, nous nous levons et nous partons d'un air désorienté. Nos évaluations en souffrent. Notre degré d'approbation baisse. Nos amis commencent à nous éviter. Nos conjoints nous accusent, à juste titre, d'être distraits, absents. Ou bien ils nous disent « Oh, cesse de ressasser et va donc nager pour oublier tout ça ». Et à 3 heures du matin, tandis qu'ils dorment paisiblement à nos côtés, nous nous réveillons en sueur, les joues en feu, les mâchoires serrées, le cœur battant. Que se passe-t-il? Ainsi, finalement, les fissures se multipliant, le directeur déclare « Pour la sécurité des nageurs et du personnel, à partir du dernier dimanche d'août à 15h, la piscine sera définitivement fermée. » « Au revoir et merci, » nous dit l'administrateur de la piscine. Et en un claquement de doigts, tout est plié. « C'est un cauchemar, » dit l'une. « Un désastre, » dit l'autre. Linda grimpe en haut des gradins et se met à pleurer en silence. « Je croyais qu'on pourrait rester là, en bas, pour toujours, » dit Rose. Ligne 2, Irène, brasse indienne, tire doucement sur le bas de son maillot et regarde ses pieds. « J'étais si heureuse dans ma ligne, » dit-elle. « Moi aussi, » dit Alice. D'autres parmi nous se sentent étrangement soulagés. La catastrophe que nous attendions est finalement arrivée. Un poids nous est enlevé, une ombre est passée. L'incertitude n'est plus de mise. Ça y est, c'est terminé. Fini de rire. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Quelques-uns, des exceptions, insistent même sur le fait que la fermeture de la piscine n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une opportunité pour arrêter de traîner en tongs et enfin remonter là-haut pour commencer à vivre pour de vrai. Parce que la vie ne se résume pas à la contemplation de cette petite ligne noire. La vie, la vie, la vie, que va-t-elle devenir ? Et en particulier la vie d'Alice. La vie avec ou sans la piscine comme élément structurant, c'est donc terminé pour Alice, comme pour les autres. En fait, cet élément rassurant disparaît. Et Alice, nous la retrouvons dans la troisième partie du livre, installée dans la maison de repos où ses pertes de mémoire, ses problèmes de vie quotidienne ont poussé ses proches à l'installer. Le récit est encore une fois d'un narrateur extérieur, mais qui cette fois s'adresse à la fille d'Alice. Ou bien quelquefois le récit est fait par sa fille elle-même. Nous allons donc retrouver le nouvel univers d'Alice dans sa maison de repos.
Elle se rappelle son nom. Elle se rappelle le nom du président. Le nom du chien du président. Elle se rappelle dans quelle ville elle vit, dans quelle rue elle vit, dans quelle maison, celle avec le gros olivier dans le tournant. Elle se rappelle en quelle année on est, en quelle saison. Elle se rappelle le jour de ta naissance, la petite fille qu'elle a eue avant toi. Elle avait le nez de ton père, c'est la première chose que j'ai remarquée chez elle. Mais elle ne se souvient pas de son nom. Elle se souvient du nom de l'homme qu'elle n'a pas épousé, Franck. Elle conserve ses lettres dans un tiroir près de son chevet. Elle se souvient que tu as été mariée naguère, mais elle refuse de se rappeler le nom de ton ex-mari. Ce type, elle l'appelle. Elle a oublié ce qu'elle a mangé hier soir au dîner et quand elle a pris ses médicaments la dernière fois. Elle oublie qu'il faut boire davantage. Elle oublie de se coiffer. Elle se souvient des kakis desséchés qui autrefois pendaient le long des corniches de la maison de sa mère à Berkeley. Ils étaient d'un orange extraordinaire. Elle se souvient que ton père aime les pêches, que tous les dimanches matins à 10 h, il l'emmène faire un tour en bord de mer dans la voiture marron. Que chaque soir, juste avant le journal de 20 h, il dépose 2 biscuits chinois sur une assiette et lui annonce que c'est la fête ce soir. Elle sait que chaque lundi, il rentre à 16 h de l'université et si jamais il a 5 minutes de retard, elle sort l'attendre devant le portail. Elle sait où est sa chambre à elle, où est sa chambre à lui, que celle qui est désormais la sienne était auparavant la tienne. Elle sait qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Elle se rappelle le début de la chanson How High the Moon, le serment d'allégeance. Elle se rappelle son numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone de Jean, sa meilleure amie, de Jean, sa meilleure amie, même si elle est morte depuis 6 ans. Elle se rappelle que Margaret est morte, que Betty est morte, que Grace ne téléphone plus. Elle se rappelle que sa mère à elle est morte il y a 4 ans en regardant les oiseaux par la fenêtre et qu'elle lui manque de plus en plus chaque jour. Ça ne s'atténue pas. Elle se souvient du numéro attribué par le gouvernement à sa famille au début de la guerre, 13611, qu'elle a été envoyée dans le désert avec sa mère et son frère au cours du 5e mois de la guerre et qu'elle a pris le train pour la première fois. Elle se souvient du jour où ils sont rentrés, le 9 septembre 1945. Elle se souvient du bruit du vent qui sifflait à travers les buissons d'armoises, des scorpions et des fourmis rouges. Elle se souvient du goût de la poussière. Quand tu viens la voir, jamais elle n'oublie de te serrer fort contre elle et sa vigueur te surprend toujours. Jamais non plus elle n'oublie de t'embrasser lorsque tu t'en vas, ni de te répéter à la fin de chaque conversation téléphonique que le FBI viendra bientôt te rendre visite, ni de te demander si tu veux qu'elle repasse ton chemisier avant un rendez-vous galant, ni de lisser les plis de ta jupe. Ne monte pas plus haut tout de suite. Elle n'oublie pas de ramener sur le côté ta mèche rebelle, mais elle oublie qu'elle a déjeuné avec toi il y a 20 minutes et te propose d'aller manger un sandwich et une tarte chez Marie Callender. Elle ne se rappelle plus que naguère elle confectionnait les plus belles tartes avec une croûte crénelée parfaite. Elle ne se rappelle plus comment repasser ton chemisier, ni à quel moment elle a commencé à oublier. Quelque chose a changé. Elle ne se rappelle plus ce qu'elle doit faire ensuite. Elle oublie le nom des fleurs qu'elle a plantées dans le jardin il y a 3 jours avec toi. Rose, jonquille, immortelle. Elle oublie qu'aujourd'hui c'est dimanche et qu'elle a déjà fait sa promenade. Elle oublie de t'appeler même si elle dit toujours qu'elle le fera. Elle sait encore jouer la sonate au clair de lune au piano et aussi chopsticks et faire ses gammes. Elle sait qu'il ne faut pas discuter avec les commerciaux qui appellent au téléphone. Nous ne sommes pas intéressés. Elle sait sa grammaire après que tu m'as appelé. Ses bonnes manières. Elle dit merci et s'il vous plaît. Elle s'essuie chaque fois qu'elle va aux toilettes, tire la chasse d'eau, retourne sa bague de fiançailles quand elle enfile un collant, n'oublie pas de remettre du rouge à lèvres dès qu'elle sort de la maison, ni d'appliquer sa crème anti-rides le soir avant de se coucher. Ça agit mieux la nuit. Le matin, à son réveil, elle se souvient de ses rêves. Je marchais à travers une forêt, je nageais dans une rivière, je cherchais Franck dans une ville que je ne connaissais pas, et personne ne voulait me dire où il était. Lorsque tu l'emmènes au supermarché, elle sait dans quelle allée se trouve le café, que dans l'allée suivante, il y a le lait. Elle connaît le nom de la caissière à la caisse rapide qui toujours la serre fort dans ses bras, Diane. Celui de la fleuriste qui toujours lui donne une rose à la tige cassée. Elle sait que l'employé du rayon boucherie s'appelle Big Lou. Eh, salut ma belle, lui dit-il. Elle a oublié ce qu'elle a fait de son sac et elle panique jusqu'au moment où tu lui rappelles qu'elle l'a laissé à la maison. Je ne me sens pas moi-même sans mon sac. Elle a oublié qu'elle a demandé à l'homme qui fait la queue d'Ariel s'il était marié, qu'il lui a répondu non avec brusquerie, qu'elle a dévisagé la vieille dame en fauteuil roulant près des melons en te murmurant à l'oreille « J'espère que je ne finirai pas comme ça ». Elle se souvient de cette énorme mimosa qui poussait naguère sur le parking à côté des caddies et qui n'est plus là, rien ne reste tel quel. Elle se souvient qu'autrefois, elle était une excellente nageuse, qu'à la dernière session, elle a raté 3 fois d'affilée le test pour pouvoir continuer à conduire. Elle se souvient que, quand son père est parti, sa mère a éparpillé aux 4 coins des pièces des petits tas de sel pour purifier la maison. Elle se souvient qu'ils n'ont plus jamais parlé de lui. Elle se rappelle le jour où elle a eu son diplôme de fin d'études au lycée avec une mention d'excellence en latin. Elle se rappelle comment on dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Veni, vidi, vici. Elle se rappelle comment on dit « J'ai perdu ma journée ». Diem perdidi. Et comment on dit « Je suis désolé » en japonais, ce que tu ne l'as pas entendu prononcer depuis des années. Elle se rappelle les mots « ri » et « toilette ». Elle se rappelle « attendez ». Shoto mate kudasai. Que rêver d'un serpent blanc porte chance, que ramasser un peigne tombé par terre porte malheur. Elle se rappelle qu'il ne faut jamais courir pour se rendre à un enterrement. Quand tu amènes avec toi l'homme qui, tu l'espères, sera ton prochain ami, Marie, elle n'oublie pas de le débarrasser de sa veste, de lui proposer un café, de lui offrir du gâteau, de le remercier pour les roses. « Donc, elle vous plaît ?» l'interroge-t-elle. Elle n'oublie pas de lui demander comment il s'appelle. « C'est mon aîné, vous savez. » Elle s'aperçoit, 5 minutes plus tard, qu'elle a déjà oublié son nom et elle lui repose la question. « C'est le prénom de mon frère, » lui dit-elle. Elle ne sait plus qu'elle a parlé à son frère le matin, même au téléphone. Et qu'elle s'est promenée avec toi dans le parc. Elle ne sait plus comment préparer le café. Elle ne sait plus comment servir le gâteau.
Le monde d'Alice, c'est donc désormais le monde de ses oublis et de ses souvenirs. De ses oublis du quotidien et de ses souvenirs d'il y a longtemps, de ses souvenirs ancrés dans sa vie. Et puis la vie d'Alice, c'est aussi désormais sa vie donc à la maison de repos qui s'appelle Bella Vista. Voilà, bienvenue à Bella Vista. Nous sommes une résidence privée spécialisée dans les troubles de la mémoire, accueillant des patients en long séjour et commodément située à la place d'un ancien parking en bordure d'autoroute, à quelques minutes du centre commercial de Valley Plaza. L'endroit a porté d'autres noms avant celui-ci, dont Heritage Point, Paloma Gardens, service municipal numéro 3 et The Villages at Pacifica. Il est aussi connu comme un bel endroit, un nouvel endroit, le dernier lieu, le lieu merveilleux depuis peu, pour reprendre l'expression adressée à sa mère par un garçon de 8 ans, derrière les vitres teintées du SUV dans lequel il repartait sur les chapeaux de roue. L'asile de fous. Ici, à Bella Vista, nous ferons tout notre possible pour répondre à vos besoins et à mesure de leur évolution, alors que vous entrez dans cette phase ultime de votre voyage. Lorsque vous serez passé entre les mains de notre équipe d'accueil, rencontre de bienvenue, panier garni, inspection complète des irritations de la peau et des grains de beauté, on vous donnera une chambre, un numéro, un lit, et si vous n'avez pas apporté les vôtres, un trousseau complet de vêtements avec des étiquettes thermocollées faciles à identifier. Désormais, vous n'aurez plus jamais à craindre de vous perdre, parce que même si vous ne savez pas où vous êtes, nous le savons. Dans l'éventualité fort peu probable où vous réussiriez à quitter l'établissement, le traceur GPS qui vous est apposé derrière l'épaule gauche nous informera aussitôt de vos coordonnées géographiques sur la carte. La nuit, votre sommeil sera surveillé à distance par des capteurs électroniques. Si vous tentez de vous lever seul, le sol sensible à la pression activera aussitôt l'alerte mobilité et un membre de votre équipe mémoire arrivera aussitôt pour vous aider. Quelques informations au sujet de votre état. Votre maladie n'est pas temporaire. Elle est évolutive, inguérissable et irréversible. Et au bout du compte, au bout de la vie en somme, elle débouchera sur la mort. Les médicaments, non, vous ne pouvez pas les arrêter. Le thé vert infusé avec du ginkgo biloba ou du gotu kola n'y changera rien. Les prières ne seront d'aucune efficacité. Les mouvements de qigong, franchir les étapes ou donner plus de sens à sa vie, n'auront aucun effet. Adopter une attitude positive réaliste n'empêchera rien, voire pourrait hâter votre déclin. Il n'y a pas d'exception à ces règles. Vous êtes certes une personne particulière, mais votre cas ne l'est pas. Il y a 87 personnes à Bella Vista qui connaissent la même affection que vous. Et elles sont plus de 50 millions à travers le monde. Bon, je vais vous laisser sur cette note un peu pessimiste. Vous avez bien compris que Bella Vista, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la part de Julie Otsuko, une critique de ce monde ripolliné qu'on trouve aux États-Unis ou ailleurs. Ce monde, en l'occurrence, de fin de vie, mais aussi cette société dans laquelle elle nous l'écrit dans certains autres passages. Quand on a de l'argent, on a droit à des spécialistes diplômés. Quand on a un peu moins d'argent, on a des aides-soignants un peu moins diplômés. Et franchement, comme Alice le dit à d'autres moments à sa fille, « Oh, puis tu sais, ben, finalement, on n'a absolument plus rien. » Donc, Alice, nous ne verrons pas sa fin de vie, bien sûr. On va la laisser dans un univers pas forcément positif. Mais en tout cas, on va la laisser dans sa Californie, au soleil. Et on reviendra la semaine prochaine avec un autre livre qui nous emmènera sous d'autres latitudes. À bientôt! Malaika, nakupenda malaika, malaika.